Puis ça a été comme pour moi mon premier gros défi.
Je pense pas que je veux devenir humoriste. Je pense que je suis déjà drôle.
C'est moi qui maintenant mets des choses dans le cœur de mes petits-enfants et dans leur mémoire.
Mon père disait, tu vas pas gagner ta vie avec ça. Tu vas te retrouver comme moi à l'usine.
J'ai fait le dragon pour des raisons un peu personnelles.
Tout le monde a droit de stanner. Moi, je me tanne jamais.
Sans fil. Et c'est sans filtre, cette entrevue avec Emmanuel Bilodeau que vous allez pouvoir voir dans la nouvelle dramatique de Daniel Trottier, pardon, l'auteur, Toute la vie. Ça commence la semaine prochaine à la SRC, à la télévision de Radio-Canada. Évidemment, Emmanuel, merci d'être là d'abord.
Oui, ça fait plaisir.
Merci
d'être
de te
là.
Prêter au jeu de cette entrevue
hier,
sans filtre.
Libre par hasard.
Ben oui, écoute, toi, parce que tu es légèrement occupé, mon cher ami.
Oui, quand même, pas pire. Oui, ouais. Moi, je suis un peu dépassé.
Là, en fin de semaine, j'en profite pour le dire tout de suite, si les gens te cherchent, tu vas être le porte-parole de la fête du pain à Saint-Roch-des-Aunais.
Oui, je pars tout à l'heure en auto avec mon fils.
Près de
Saint-Jean-Port-Joli.
Saint-Jean-Port-Joli,
ouais,
c'est magnifique.
Village voisin, c'est vraiment écœurant.
Mais tu viens pas de là, toi. Toi, tu viens de Hull.
Oui, mais j'ai passé toute mon enfance en vacances à Rivière-Ouel, pas loin de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aunais, pas loin de la Pocatière.
Puis moi, le bas du fleuve.
Ouais, le bas du fleuve, pour moi, qui est la côte du sud un peu maintenant, la côte du sud, c'est mon endroit au monde où je me sens le plus chez nous. Je sais pas pourquoi.
Et c'est magnifique. C'est la mer qui te fait ça?
Oui, c'est la mer. Les couchers de soleil sont magnifiques sur Charlevoix. Ah. C'est les gens. Il n'y a pas de grosse attraction touristique. Il n'y a pas de grosse montagne. Il n'y a pas de grosse richesse. C'est du monde simple qui font la petite ville fun, qui m'inspire un changement de vie. Moi, je vivrais là tellement.
Mais oui, tu es arrivé dans le studio tout de suite là, en disant le changement de vie. Tu entendais Hélène et Patrick dire, ouais, moi, je rêve d'être pâtissier.
Ah, mais boulanger, en fait.
Boulanger, voilà.
Au bord de la 132 dans le bas du fleuve. Là,
mais c'est sérieux?
Oui, je rêverais d'avoir un moulin à farine. Saint-Roch-des-Aunais, c'est là que je m'en vais dans un moulin à farine, moulin à eau, qui moule la farine. Puis une boulangerie là, qui est opérée déjà par un super jeune et charmant, sympathique garçon. Puis lui, il fait du pain comme un fou. Puis, tu sais, je trouve ça écœurant comme vie, là. Faire du pain, c'est comme donner un peu de soi aux autres. Puis moi, donner de soi, de moi aux autres, puis à mes enfants, j'adore ça. Ça me remplit de bonheur.
Pourquoi tu le fais pas?
Ben c'est ça, là. Pourquoi je le fais pas? On est dans une vie, là, c'est parti. Ma fille a 23 ans. Bon, là, j'ai un bébé de 2 ans. Puis là, les enfants vont à l'école, puis ils sont bien. Puis la vie, elle coule quand même, puis c'est le fun.
Puis t'as ta conjointe, Edith Cochrane, qui a quand même une carrière ici à Montréal.
Oui, c'est ça, là, on travaille beaucoup à Montréal, les deux.
Est-ce qu'elle irait dans le bas du
changement de vie, des fois, on en parle comme un fantasme. Mais tu sais, c'est 4 heures de route, c'est pas si loin, là. On pourrait quand même le faire. Mais la vie en ville est douce. Quand même, on est content d'être en vélo. Tu sais, je suis en vélo d'ici. Moi, je serais pas venu 2 heures de route faire une entrevue avec toi. J'aurais passé aussi au téléphone. Ça aurait
même
été moins
si
le fun.
Là.
Je t'adore, là. Mm-hmm. T'es merveilleuse. Mais tu sais, la veille, tu sais,
mais tu vois, je te vois réfléchir à pourquoi on le fait pas.
Je sais pas. Ça m'interpelle. Puis moi, j'ai commencé en catimini. J'ai fait un cours de scénarisation avec Pierre-Yves Bernard l'hiver passé. Puis j'ai commencé à écrire une série qui c'était ça. C'était un gars comme moi, là, qui est dans une grosse vie de Montréalaise, là, j'exagérais ma vie, là, une grosse cabane, puis tout ça. Puis il impose à toute sa famille de déménager à Saint-Jean-Port-Joli, faire du pain, puis partir de rien, là. Pas genre, on se fait un coussin d'argent.
C'est un bon synopsis.
Il donne tout, là, comme Moïse, là, il donne tout. Il n'y a plus d'argent, il est tout nu, nu-pied, puis il repart à zéro dans un cabanon sur le bord de la route, il achète ça pour 22 piastres. Puis il se refait une vie avec des défis hauts, tu sais, des défis de base, là, puis de dons, puis d'entraide. Puis, tu sais, une vie le fun, là, qui fait que t'es rayonnant, comme elle disait tantôt ton invité.
Ouais,
c'est tellement inspirant.
Ouais.
De pas s'encrasser. Puis pourtant, j'aime ma vie, là. C'est pas une affaire de j'aime plus ma vie, je suis angoissé, je suis suicidaire. C'est pas ça du tout. Changer de vie dans une seule vie. Tu sais, on n'a rien qu'une, il paraît.
Ouais.
Caroline, que ce serait le fun d'en vivre plusieurs, tant qu'à faire. Mais, tu sais,
c'est. Et t'as écrit combien de pages là-dessus?
Ah, je l'écris quand même plusieurs pages, là. Puis là, le temps fait qu'avec ma fille, je donne tout mon temps à ma fille de 2 ans, puis à mes autres enfants, puis les lunchs, puis le pain, puis tout ça, là. J'ai pas continué à écrire parce que j'ai pas cette discipline-là. Mais il faudrait que je m'allie à des gens qui sont spécialisés là-dedans, puis que je continue sur mon projet. J'aimerais ça.
Oui.
J'aimerais ça tout faire, en fait. J'ai trop de projets que je veux faire.
Es-tu angoissé, toi? Tu dis, c'est fou.
Moi, j'ai l'air angoissé. Tout le monde a dit, tu es angoissé.
Non,
mais,
en fait, non, c'est parce que.
Mais je t'allume au bout, là.
Ouais.
Mais je pars.
Non, clairement.
Je suis angoissé parce que je suis très réaliste, là. Je vois bien la Terre qui tourne tout croche.
Ah, ça, c'est quoi?
Je suis pas dans le déni, là. Je vois bien que la Terre, ça va pas bien. L'humain, il fait n'importe quoi. Fait que ça provoque chez moi un certain inconfort, puis le goût de changer le monde aussi. J'ai le goût de sauver le monde. Ça me vient de mes parents. Ma mère était une bénévole dans l'art, mais voulait toujours aider. Mon père aussi. Puis là, je suis avec le complexe du sauveur. Moi, je pense que je pognais que ça.
Ah oui?
Ouais, je pense que j'ai ça en moi, le complexe du sauveur.
Comment tu le vis?
Ben, de vouloir toujours tout sauver. Comme j'ai toujours voulu sauver le Québec, faire l'indépendance pour empêcher que le français disparaisse, mettons. Puis que notre culture s'étiole, puis nos valeurs partent au vent. Puis c'est comme mon, c'est ça ma motivation. On dirait, c'était que j'étais tellement fier de notre bout de terre, de territoire, puis des habitants qui le composent, puis peu importe les religions, puis peu importe tout ça, les origines. J'avais le goût qu'on protège ça d'une façon le fun, avec des valeurs saines, puis qu'on soit maître de notre destin, ce qui est à la base pour moi d'une vie de société le fun.
Pourquoi puis tu bon. Le dis au passé, là, j'avais le goût,
j'ai... Ben, j'avais
t'as-tu
le goût,
moins le goût?
Ben, là, j'ai 55 ans, je laisse le combat à d'autres, puis j'ai comme, en vieillissant, tu fais, ben, je me battrais pas contre un moulin avant, les gens ont pas le goût d'en entendre parler. Puis moi, veux pas, l'environnement a pris le dessus sur ces préoccupations-là géographico-politiques. Je trouve que l'environnement, c'est le combat d'une planète. Là. Ouais. On ne peut pas faire fi de ça. Ouais. Quand l'environnement sera réglé, on s'attaquera peut-être aux problèmes plus urgents, moins urgents en fait, moins urgents. Mais je trouve que l'environnement, c'est le grand combat du siècle, de la décennie, du millénaire. Il faut vraiment que tout le monde, on se tienne les mains puis on fasse quelque chose avec ça de plus concret. Il faut que ça presse. Je trouve qu'il ne faut pas
niaiser. Et puis peut-être que les changements de vie dont on parle beaucoup, c'est dans cette mouvance-là.
Oui, c'est en accord avec ça aussi, de réduire la vitesse de nos vies, réduire la consommation. C'est pas évident, là. Nos enfants, ils veulent quand même des PlayStation, là, même s'ils savent que ça va pas bien. C'est plus fort qu'eux, là. Leurs amis en ont, ils veulent
des
guns,
Nike, puis des
Nerf, là. Ils veulent se tirer des balles de caoutchouc.
Ouais.
Parce que c'est le fun, là, pas parce qu'ils veulent se tuer. Puis donc, il faut l'acheter, ça. Puis donc, pour l'acheter, il faut faire de l'argent, puis il faut les nourrir avec des affaires qu'ils aiment. Ils veulent pas tout le temps manger du tofu, fait que là, il faut payer là, les burgers Beyond Meat.
Manges-tu du Beyond Meat?
Ouais, ça m'arrive parce que c'est les seuls que les enfants adorent.
Ah,
ben, Beyond Meat, là, ce genre de patente-là. Là. Des fois, oui, des fois, ils vont avoir droit à de la viande chez des amis parce que nous, on est vegan pas mal chez nous. Puis c'est ennuyant des fois qu'on n'arrive pas. Moi, j'arrive pas bien à cuisiner tout le temps le vegan, là. Ça
hey, c'est drôle parce que toi, tu viens d'une famille de 12 enfants.
Et on mangeait n'importe quoi.
C'est ça. Là, aujourd'hui, maintenant, là, t'es rendu tout le monde à son petit buffet à la maison. Je ne sais pas si ça marche chez vous comme ça. Là,
ah, des fois, oui. Des fois, les enfants, il y en a un qui aime ça. L'autre, il n'aime pas les poivrons. Fait que là, un aime le burger. L'autre, il ne veut pas manger ça. Fait que là, on sort de quoi du frigo. Moi, je veux pas les Moi, j'ai vécu toute ma vie, là, mais mon enfance, j'étais obligé de manger les rognons.
C'était
de purin,
ça, puis c'était ça. Là.
C'était ça. Puis là,
des rognons.
Ouais, des rognons. C'était dégueulasse. C'est des reins de porc, là, je pense. Je sais pas quoi.
Ouais.
Ça goûtait le purin, là.
Ouais.
Fait que moi, à 10 heures le soir, des fois, on était encore à table avec le chien, mais on donnait ça au chien, sans que ça paraisse, parce qu'on était obligé de manger jusqu'à temps qu'on ait fini. Parce qu'on était 12 enfants, puis il n'y a pas les moyens, mes parents, qu'on commence à chipoter sur le petit plat qu'on n'aime pas. Fait que,
qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents?
Mes parents étaient traducteurs, tous les deux. Oui, c'était merveilleux.
Puis tu viens d'une famille, c'est vrai que Maxence Bilodeau, que les gens connaissent peut-être.
Un ancien journaliste qui a pris sa retraite l'hiver passé.
T'as aussi Julien?
Julien, qui a pris sa retraite aussi depuis un bout à la radio.
Journaliste aussi. Toi aussi, t'as fait un cours de journalisme.
J'ai fait du journalisme.
T'as fait avocat, t'as fait ton droit?
Oui, j'ai fait mon droit, mais j'ai pas fait de cours de journalisme, j'ai pratiqué le journalisme.
T'as pratiqué le journalisme. Mais t'as fait ton droit, c'est ça? T'as passé ton barreau?
Oui, j'étais avocat, ex-avocat.
T'aurais pu être avocat?
Oui, j'ai changé de vie, moi, à 22 ans.
C'est
24,
ça?
J'ai changé de vie complètement. En étant accepté à l'École nationale, ben encore une fois, j'ai toujours été comme ça. Je suis attiré par tout.
Oui.
Plein d'avenues. Puis quand ça fonctionne, ben t'es content. Tu fais, OK, ben je vais essayer ça dans le fond. J'ai fait mes auditions à l'école de théâtre. C'est un vieux fantasme pour moi d'être comédien. Puis là, j'étais avocat. Puis en catimini devant le palais de justice, je traversais la rue, habillé en complet d'avocat, cravate. Puis j'étais arrivé avec Valérie Blais. Je me suis mis mon complet cravate dans ma valise d'avocat. Je me suis mis en jeans, t-shirt. Puis avec Valérie Blais, qui avait genre 18 ans, qui me donnait la réplique, qui me coachait en plus. On connaissait rien de nous deux. Puis là, elle m'a donné la réplique au Conservatoire d'art dramatique. J'ai pas été pris, j'étais sur la liste d'attente, mais deux mois après, j'ai fait une audition à l'École nationale, puis j'ai été pris contre toute attente.
Tu as été refusé au conservatoire, mais ils t'ont pris à l'École nationale.
Ouais, sans Valérie Blais, qui pouvait plus me donner la réplique. J'ai demandé à quelqu'un, pas rapport. On s'est vu deux fois, j'ai fait mes auditions, puis j'ai été pris au stage, puis après ça, j'ai été pris à l'École nationale, ce qui était un rêve. Là, puis là, j'ai vraiment changé de vie. Là, j'ai eu un grand vertige. J'ai fait, mon Dieu, je peux pas croire. Je me suis retrouvé dans des cours de chant lundi après-midi, plutôt que d'être dans un bureau d'avocat, super stressé. Avec 80 patrons qui me donnaient du travail, puis que moi, ça m'angoissait vraiment beaucoup.
Mais pourquoi t'étais allé en droit?
Ça me rassurait, moi, d'avoir un métier, une formation juridique qui me permettait de comprendre la société de l'intérieur pour être un meilleur journaliste. Moi, je rêvais, comme tous mes frères, et mon père était bon là-dedans aussi, nous inculquer la passion de l'information, de l'histoire, des sociétés. Il nous parlait sans arrêt de ça. Fait que moi, j'avais le goût instinctivement d'être journaliste. Là, ça me faisait capoter. D'ailleurs, je reviendrai à ça aisément, si j'avais pas de job, le journalisme, moi, je trouve que c'est merveilleux. C'est, c'est être spectateur de l'actualité puis de transmettre l'information pour que la société soit au courant, évolue, soit en phase avec le monde. J'adorais ça, vraiment. Mmh. Ça m'a toujours fait bizarre de me faire poser des questions. Comme là, tu me poses des questions comme si j'avais de quoi à dire de particulier. J'ai toujours trouvé que les autres avaient tellement plus à m'apprendre que moi d'apprendre aux autres. Mais bon,
c'est sûr, c'est pour ça que moi, je pose des questions.
Ouais.
Jaillir répond à des questions.
Ah, c'est ça, là. Mais moi, je me suis habitué, mais c'est comme un mal nécessaire.
Mais c'est fascinant d'entendre les histoires des autres.
Oui, c'est ça.
Et moi, toi, tu en écris même, tu as ce désir même d'en écrire, parce que l'écriture est importante.
Oui, ouais, depuis
quelques
années.
Moi, je te suggère de pousser ton affaire de gars qui veut lâcher pour aller faire du pain.
Ça me tente, mais je manque de structure, je suis vraiment en déficit d'attention,
ouais.
Pas mal.
Oui, es-tu TDAH officiel?
Je suis quoi?
TDAH?
Hey, je sais pas comment. Je me tente pas d'aller voir un médecin et dire « Je suis TDAH ». Il va me dire « Oui, sûrement ». Fait que je sais, mettons, un peu. Ma blonde peut le confirmer. Je pense que je suis un peu TDAH.
Mais est-ce que as-tu de la misère à prendre certaines décisions? Est-ce que... Mais là, regarde, on est ensemble. On peut tous se dire. On est tous un peu TDAH.
Radio, là.
Non, ben là.
OK,
c'est,
view. Ouais.
On est tous un peu TDAH. J'en parlais avec des amis.
Oui, hein?
Là, on, la société nous force à être TDAH.
Ouais,
là, on est complètement tout le temps stimulé.
Partout, c'est fou, là. Ouais.
Qu'est-ce qui te stimule, toi, tout le temps? Es-tu très téléphone, cellulaire?
Moi, ouais, j'étais un peu accro à ça. Je me travaille. On travaille beaucoup nos gars là-dessus.
Fait que toi, t'es quatre enfants. T'as 23 ans à 23 mois.
Ouais.
Fait une grande marge, là, les quatre enfants.
Maison.
C'est quatre générations, quasiment. J'exagère un peu.
Oh, non, c'est quatre générations, complètement. Ma fille de 2 ans n'est pas du tout sur le cellulaire, ni sur les écrans. On est bon avec elle, là. Pas avant 4 ans.
Elle n'est pas sur l'iPad, là, déjà?
Es-tu folle? Jamais de la vie. Aucun écran avant 4 ans. Okay. Ça, c'est un idéal que j'avais lu dans un journal, à mon étude scientifique. Puis idéalement, le moins d'écran possible. Mais mes gars, ça n'a pas été ça. Fait qu'ils aiment beaucoup ça.
Ils ont quel âge?
Ils ont 9 et 11.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est tough d'avoir une conversation avec un enfant qui prend son écran. Fait que, à la maison, on est très rigoureux sur l'écran. On limite au maximum les temps d'écran. Ce qui fait qu'on est un peu gossant, mais en même temps, c'est très positif pour eux. Puis moi, dès qu'ils me disent « on va jouer à quelque chose », je dis oui. Hier, je jouais au tennis avec mon gars à 9h le soir. Ça me tentait pas, là. J'étais fatigué. Mais c'était des moments merveilleux, là. On a joué au tennis ensemble. Puis avec l'autre, j'étais allé faire une ride en vélo dans la ville pour acheter un livre. Tu sais, c'était vraiment... J'étais fatigué, mais ça me tentait de leur permettre de vivre ça plutôt que de faire de l'écran. T'sais, tout sauf l'écran.
Donc, tu n'as pas à les forcer de bouger, ils bougent.
Ben, des fois, il faut les forcer.
Ouais,
j'avoue.
Des fois, là, tout le monde va se mettre à jouer au tennis là, avec notre championne là, qui était au US Open.
C'est assez excitant quand même.
Tu as dû regarder ça hier.
Non, j'ai pas regardé ça. Il était 10h quand on est rentré du tennis tout-même. Puis là, il fallait qu'on se couche.
Mais non, mais c'est bon. On s'arrête ici, nous. Ça passe vite.
Non. Ah, ça passe vite.
Oui, okay. mais tu reviens tout de suite après la pause.
Oui,
on va aussi parler de. Parce que tu as l'air d'être un père assez cool, finalement.
Ben, plus ou moins. Des fois, je suis rochant.
Et là, tu as un rôle de père pas très cool.
Pas cool, pas
cool du tout. À tout de suite, tout le monde. On est en compagnie d'Emmanuel Bilodeau.
Est-ce que vous allez être en mesure de nous dire s'il y a des dangers pour sa santé? Est-ce parce qu'elle est vraiment jeune?
Ben, ça va dépendre de ce que vous allez décider, hein, si elle poursuit ou non.
Il faut y enlever ça tout de suite.
Bon, ben, il va falloir que vous alliez au centre hospitalier régional.
Comme juste au début. On ne peut pas faire ça dans votre bureau ici?
Monsieur Pelletier, ça se fait à l'hôpital.
Je veux qu'on y enlève ça le plus vite possible.
Ça étant un enfant à devenir,
fœtus,
ou en tout cas un fœtus, ou
un embryon.
Un embryon, une petite graine de quelque chose qui va devenir éventuellement un humain. On ne fera pas tout le débat là, sur l'avortement, mais c'est une série, Toute la vie, dans laquelle Emmanuel Bilodeau joue le rôle d'un père assez straight, ce à quoi on n'est pas habitué. Ça te change de René Lévesque.
Ça me change de tout ce que j'ai fait récemment aussi, en humour,
ben
puis
oui,
en
t'étais
légèreté,
beaucoup dans l'humour.
Puis en sketch, puis tout ça, c'est vraiment intense.
Mais c'est un magnifique rôle. Puis le but d'être comédien, c'est effectivement de jouer des rôles qui sont loin de nous. C'est ça le bonheur.
Oui, tout à fait. Mais je suis un humain aussi. Je suis capable de porter en moi tout. Là. J'ai
tout
autant
à fait.
Des angoisses, de la violence. Je suis pas violent physiquement, là. Je me contrôle vraiment bien, mais tu sais, je viens
de l'humain
jouer
un rôle
qui
de
vient du singe.
Ben oui.
On est tous des humains avec toutes les gènes de tout. Fait que tout se joue. Puis je suis un père aussi, je comprends bien, là, quand on est à bout, qu'est-ce qui peut arriver à des pères qui perdent le contrôle. Heureusement, moi, ça m'arrive pas d'envie de perdre le contrôle à ce point-là, mais des fois, j'échappe un sacre parce que mes enfants me poussent à bout parce que ça n'a pas de bon sens. Mes gars, principalement, je les adore, mais des fois, sacrifice que c'est tough. Mais mes filles, c'est tellement facile. Je lève jamais le ton, puis ils comprennent tout. C'est merveilleux.
On est bien docile.
Pas docile, mais raisonnable.
Oui, on est
raisonnable.
En tout cas,
mes filles sont raisonnables, puis c'est vraiment facile. Mais il faut dire qu'ils ne sont pas dans une synergie à deux. Là. Ils sont comme... Mais ma fille a 23, elle était toute seule pendant 11 ans, puis là, ma fille, elle a 2, fait que... elle n'a pas à partager notre attention tant que ça, mais...
Ça se dit, c'est ça, dur d'être comme père. Trois groupes, finalement.
Trois groupes, oui, ouais, des groupuscules. Ouais. Mais c'est difficile d'être parent, c'est difficile d'être, ouais, être vivant, c'est difficile aussi. Puis c'est difficile quand tes enfants te mettent dans des situations extrêmement limites. Et là, je ne veux pas juger mon personnage, je l'adore, il s'appelle Raj.
Ouais.
Il est dans une situation, on le prend dans sa vie, là, avec sa femme Fanny Mallette, qui est jouée par Fanny Mallette, dans une situation où sa fille de 13 ans, qui a l'air d'un embryon elle-même, là, est miniature, elle doit peser 80 livres, elle est toute cute,
elle est
merveilleusement bonne. Ouais. Elle tombe enceinte à sa première aventure avec un garçon plus vieux. T'sais, elle a 13 ans et trois quarts, là, si jeune. Fait que là, le père, lui, qui pensait être capable de contrôler l'affaire de sa vie, avoir le contrôle sur ses filles, il les nourrit, il leur donne, il leur achète des vêtements, il leur permet une vie décente avec ce qu'il y a comme moyen, très peu de moyens dans un petit village québécois.
Mm.
Mais là, quand sa fille tombe enceinte, pour lui, il va l'aider. Il va régler ça, lui. Il va faire enlever
ça. Faut que t'enlèves ça.
Faut que t'enlèves ça tout de suite.
Ouais.
Tu peux pas regarder ça, là.
J'ai trouvé ça intéressant comme approche. Je t'avoue que j'ai été surpris de la proposition du thème parce que j'avais